Paula,
Vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Salut les amis, c'est Polar Vin et compagnie. Moi, c'est Bébert. J'en avais pris pour 20 ans et là, je suis en période de probation à Radio Larzac. Et comme ces tocards de Cap Polar, ils n'étaient pas foutus de faire leur émission, le Nico, il m'a dit « Allez Bébert, toi qui faisais une émission pour Radio Zanzan au Baumette, bah, tu passes derrière le micro. » Une émission en direct, j'ai jamais fait ça moi. Bon, avec le Nico manette, je risque pas grand-chance. Hein. Salut Nico.
Salut Bébert.
Eh ouais, si j'avais eu un porte-flingue comme le Nico à l'époque, j'aurais évité la casse-prison au Monopoly de la vie. Si j'étais un falzard, le Nico, ce serait mes bretelles. Alors l'émission là, Polar Vin et compagnie, j'ai vu les rubriques, bon, c'est pas super poilant leur truc. Si, il y en a une qui m'a plu, la rubrique Pinard. D'ailleurs, ils font un truc la semaine prochaine parce qu'à Cap Polar, ça rigole pas. Ça bosse fort, comme ils disent à Istanbul. Jusqu'au bout de l'année, il y aura de l'animation. Allez Nico, envoie le bousin qu'on écoute ce qu'il a à nous dire, le Didier.
Il y a trop de gens qui savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Ouais, eh ben, le Pinard, c'est pas interdit, que je sache.
Eh oui, c'est le deuxième film proposé par notre association. Donc le mardi 17 décembre, la semaine qui vient, à 20h30, on vous propose donc au cinéma de Millau un documentaire. Enfin, c'est un peu plus qu'un documentaire. Il était une fois le midi viticole en présence de son réalisateur Yannick Seigné. Raconter des millénaires de culture de la vigne dans notre Languedoc, c'est vraiment pas une chose facile. Lui, Yannick Seigné, ben, il évite tous les pièges et il promène sa caméra à travers le temps. Il explore ce monde à part entière, sans complaisance, mais avec beaucoup d'amour. En fait, c'est un film d'histoire, plus qu'un documentaire. C'est l'histoire de la vigne en Languedoc. C'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes, comme souvent, et curieusement une histoire de souffrance plus que de bonheur. Parce qu'aux périodes de profond bonheur, celles où la vigne faisait vivre grassement les grands propriétaires, succédaient toujours des périodes d'un malheur plus profond encore. C'est peut-être ce qui frappe le plus dans cette histoire filmée par Yannick Seigné et son équipe, cette alternance de sourires et de larmes, d'un monde toujours ballotté par un capitalisme dévoreur et dévastateur. Je pense que vous allez être particulièrement intéressé par ce film, vous qui êtes si profondément attaché à notre terroir. Un film qui, évidemment, vous l'avez deviné, sera suivi par une discussion avec le réalisateur autour d'une dégustation de vins régionaux. Le tout pour un prix modique de 5 euros. Je parle pas du vin, mais de l'entrée au cinéma.
Tu sais pas ce qui me rappelle ? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges et la tôlière. Une blonde comac. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu ?
Lulu la Nantaise.
Pour le Pinard, c'est fait, donc vous avez retenu, il était une fois le midi viticole, celui où on picole. Non, ça c'est pas dans le titre. Le mardi 17 décembre à 20h30 au cinéma de Millau. À la bonne vôtre. Ah, on me dit dans l'oreillette que Lulu la Nantaise sera pas là le 27, mais elle vous embrasse tous.
Joyeux Noël, Pierre.
Ah, c'est pour moi ? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup, il fallait pas, vraiment. Non, c'est... Pardon, voilà. Voilà. Oh, écoutez.
J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout.
Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh.
Alors, vous n'ouvrez pas ?
Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Eh ouais. Noël se rapproche dangereusement, planquer les larfeuilles. Les lutins bénévoles du Cap Polar Sud-Aveyron ont sorti l'artillerie lourde et se sont joints à moi pour cette dernière station avant Noël. Ça, c'est un clin d'œil à l'émission d'un copain. Ah, ça va tomber les cadeaux sur les ondes de Radio Larzac. On a du matos à vous refourguer. Du noir et du bien noir. Et si on n'a pas l'âge commun, nous aurons peut-être même le daron Noël au bigot. Cette vieille canaille, ce vieux chameau, cette ordure. On commence avec l'inspectrice Alex qui a su arracher les aveux de Richard. Le gonze, il se dit bouquiniste, tu parles. Refourgueur, ouais. Prêteur sur gage à la rigueur, mais bouquiniste.
Tu peux vous renseigner ?
On a des conseils lecture à te demander, en fait.
Des conseils lecture ?
Ouais. Qui
en a... policier, on m'a dit.
Par exemple.
En polar, on m'avait dit.
Ouais, ouais.
J'en lis pas souvent, mais en tout cas, il y en a un qui m'a marqué. C'est peut-être littéraire, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un bouquin de Ken Bruen, qui est né à Galway. C'est un écrivain irlandais, c'est peut-être aussi pour ça que ça me plaît. Il a écrit une série qui s'appelle Jack Taylor. C'est dans la tradition du polar, dans le sens où il est alcoolique, solitaire, déprimé, comme tous les bons détectives. Mais c'est étonnant, c'est un polar qui a quelque chose au point de vue stylistique. Et il n'y a pas que de l'histoire, il y a une atmosphère sur l'Irlande. Pour les gens qui veulent voyager, c'est super. C'est
donc vraiment... ça se passe en Irlande.
Ça se passe en Irlande. Lui est originaire de Galway, qui est la ville ouest de l'Irlande. Il y a vraiment une atmosphère pour les gens qui veulent connaître l'Irlande ou qui veulent se rappeler de leur voyage en Irlande. On y est. C'est édité en poche. Un deuxième polar. Moi, j'aime bien les bouquins de Tony Hillerman. C'est édité chez Rivage Noir. Alors, c'est un détective navarro. Et ça se passe en réserve indienne. Son personnage principal, c'est de la police indienne. Et voilà, c'est super.
C'est à quelle époque ?
Contemporain.
Contemporain.
Il est décédé. Sa fille a pris le relais. Les fans de Tony Hillerman disent que c'est moins bien. Mais bon. Il y a une vraie découverte de la culture navarro.
Miles Davis, le même qui composait 30 ans plus tôt la musique du film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, ce magnifique film à suspense mettant en scène le couple Jeanne Moreau et Charles Denner. Mais on n'est pas là pour parler musique, bien que n'importe quel disque de Miles Davis fera un très beau cadeau de Noël. Triptyque, définition, trois œuvres en une seule ou une œuvre divisée en trois. L'œuvre, la route. En un livre, La route de Cormac McCarthy, écrit en 2006. Dans un monde de post-apocalyptique, un père, son fils et leur caddie bourré d'on ne sait quoi suivent la route pour rejoindre la côte, au sud, où il fait plus chaud. Peut-être. Ils avancent dans un paysage fait de cendres, de neige, de froid, de vent, de villes fantômes, de dangers de tous les instants. Un monde où les survivants ont perdu toute leur humanité. Un monde livré à la violence, au pillage, au cannibalisme, à l'horreur. Livre d'anticipation, livre visionnaire, livre prophétique. Une vision bien noire en tout cas de ce que pourrait être l'après. En deux, un film, La route. De John Hillcoat, réalisé en 2009 avec le très charismatique Viggo Mortensen et le jeune Cody Smith-McPhee. Film un peu décevant, qui ne peut aller au-delà d'une sage illustration de la vision du romancier, selon Télérama. « Et enfin, en 3, une bande dessinée, La Route, de Manu Larcenet, édité en 2024. Quand j'ai reçu en cadeau cette BD, j'en avais presque oublié le roman et encore plus le film. Quand il se réveillait dans les bois, dans l'obscurité et le froid de la nuit, il tendait la main pour toucher l'enfant qui dormait à son côté. Les nuits, obscures au-delà de l'obscur, et les jours, chaque jour plus gris que celui d'avant. Comme l'assaut d'on ne sait quel glaucome froid assombrissant le monde sous sa tête. L'incipit du roman suffit à résumer la BD, ou du moins ce que l'on ressent à sa lecture. Mais peut-on parler de lecture ? Les mots sont si rares. Les personnages sont souvent réduits à l'état de silhouette. C'est ce qui reste du monde et ce que nous en avons fait qui devient le personnage principal. Ce n'est pas un page-turner. Chaque planche s'explore, se visite. Les détails sont importants pour comprendre le travail de Manu Larcenet et en voir la beauté, la force. Il dit s'être inspiré du travail des graveurs et avoir utilisé « J'ai oublié combien de nuances de gris pour matérialiser cendre, vent, pluie, neige ». Un magnifique cadeau à faire, à moins que le destinataire ne soit atteint d'éco-anxiété. Allez, suivant, on reste dans le beau, mais un peu plus gai avec Nicolas, pas celui qui a la technique, un autre Nicolas, libraire de son état.
Aux auditeurs de Polar 20 et compagnie, je peux vous proposer les éditions du Petit Écart, une petite maison d'édition qui est basée à Marcillac-Vallon mais qui a une valeur nationale et qui nous propose des livres d'auteurs de polar, mais qui écrivent des textes surtout sauf du polar. Donc là, les deux derniers parus sont écrits par Marcus Malt pour l'un qui s'appelle Love Parade, l'autre par Pascal Dessin, Oiseaux et autres instants, qui sont des livres de poésie. Notamment, Pascal Dessin est un grand passionné de nature et il nous raconte donc dans ses poèmes son amour pour les animaux et notamment pour les oiseaux qu'il affectionne particulièrement. Donc ma proposition de cadeau, ce sont les livres de la collection du Petit Écart et notamment ses derniers ouvrages. Joyeux Noël.
Ouais, ben je suis pas sûr que Pascal Dessay ait observé lors de ses sorties ornithologiques le comportement animal suivant.
Il était une fois un petit oisillon qui ne savait pas encore voler. On était en plein hiver et un soir, il tombe de son nid et se retrouve sur le sentier. Alors il se met à crier. Biou, il se fend le gosier parce qu'il meurt de froid.
Et puis,
pour son bonheur, voilà qu'arrive une vache. Elle le voit, elle veut le réchauffer. Alors, elle soulève la queue. Et plaf, elle pose une belle galette fumante grosse comme ça. Le petit oiseau, bien peinard et bien au chaud, sort sa petite tête et remet ça. Pipiou, 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 plus fort qu'avant. Mais un vieux coyote arrive au triple galop. Il allonge une patte, l'extrait délicatement de son tas de merde, essuie la crotte qu'il recouvre. Et ensuite, il n'en fait qu'une bouchée. Mon grand-père disait qu'il y a une morale à cette histoire, mais il faut que chacun la trouve tout seul.
À propos, j'ai trouvé la morale de la fable que ton grand-père racontait. Celle du petit oiseau que la vache avait recouvert de merde pour le tenir au chaud et que le coyote a sorti et croqué. C'est la morale des temps nouveaux. Ceux qui te mettent dans la merde ne le font pas toujours pour ton malheur. Et ceux qui t'en sortent ne le font pas toujours pour ton bonheur. Mais surtout ceci. Quand tu es dans la merde, tais-toi.
Thank you.
faut que je me tienne à carreau, là, l'inspecteur Dérive qui rapplique.
Bonjour, c'est Noël sur PVC. Alors, les amateurs de jeux connaissent sans doute ce jeu au nom tout à fait étrange, Perspective. Alors, Perspective, mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un jeu d'enquête coopérative édité par Space Cowboy, dans lequel chaque joueur est un enquêteur qui possède des pièces à conviction sous forme de cartes, toutes différentes. Alors, on a une très belle boîte aux couleurs orangées. Et dedans, qu'est-ce qu'on trouve ? Trois enveloppes. Ce sont trois enquêtes. 12 dossiers et 108 cartes, ainsi qu'un livret tutoriel avec les règles, bref, les stratégies d'usage. Alors, comment se déroule le jeu ? Rapidement, on lit une introduction qui est très importante, donc à voix haute, tout le monde essaie de retenir le maximum de détails. Une introduction à une enquête, donc. Ensuite, on utilise ses propres cartes. Les cartes qu'on possède n'étant pas visibles pour les autres joueurs, donc les autres enquêteurs. Et ensuite, on attaque une phase de discussion où on échange les hypothèses, les possibilités diverses et variées. Bref, une vraie enquête basée sur la collaboration entre enquêteurs. Il y a donc trois scénarios dans la boîte. Chaque scénario a quatre actes et à chaque acte correspond une question. Donc on devra répondre à la fin du jeu à toutes ces questions. Et à la fin des discussions, on atteindra la question de l'acte 4 du dénouement final. Mieux on répond aux questions, plus on s'approche de la vérité, plus on a de points. Je vous passe les détails des règles, je simplifie au maximum. C'est vraiment un jeu de communication entre joueurs. Comme le note undecent.fr, c'est un site internet associatif de tests de jeux de société. Donc comme ils le notent sur leur site, c'est ce qu'on peut appeler une très belle surprise en termes de direction artistique. C'est très joli à regarder, aussi comme dynamisme dans le jeu. Et ce que le site appelle la mécanique du jeu est vraiment très original. Voilà, je vous donne un petit pitch pour vous donner un petit peu envie de voir si ce ne serait pas un bon cadeau de Noël. La première enquête, ça s'appelle Nagaraja. Ça se passe en Inde et il s'agit d'un vol. La deuxième enquête, The Dregs, se passe dans le milieu musical de San Francisco dans les années 70. Et la troisième enquête, un petit peu plus trash, Bon Baiser de Buena Vista, chez les gangs sud-américains dans les années 80. Voilà, alors pour rien vous cacher, j'ai croisé le Père Noël à Millau récemment, c'est lui qui m'en a parlé, on était devant le Jardin des Grands où il se trouve que vous pouvez vous procurer ce jeu. Fantastique, Perspective, 40 balles. Allez, joyeux Noël.
Ah, vous aussi, vous trouvez que ça sent un peu trop la testostérone par ici? Bon, ben, je vous envoie la Queen du Polar, la Baronne du Noir, Sylvie.
Alors, moi, j'ai une petite idée cadeau, si vous n'en avez pas. C'est mon dernier coup de cœur en BD, en fait. C'est une trilogie de Pierre-Henri Gaumont, qui est publiée aux éditions d'Argo et qui s'appelle Slava. Alors, en trois tomes, sortis en 2022, 2023 et le tome 3 qui vient juste de sortir. Et c'est vraiment dépaysant. C'est la destinée tragicomique de deux pieds nickelés qui sont emportés dans la tourmente de l'histoire. En fait, Pierre-Henri Gaumont, il brosse le portrait d'un pays complètement déboussolé qui amorce une transition très incertaine et annonciateur de la Russie d'aujourd'hui. En fait, il place son propos dans les années 90, au moment de la chute du régime russe. Et ces deux personnages, ces deux pieds nickelés de l'histoire, en fait, ils vont déambuler dans une Russie complètement perturbée, où finalement, on le voit au fur et à mesure des volumes, c'est la loi du plus fort et la loi du marché qui dictent en fait les activités des uns et des autres. Alors nos deux héros, Slava, lui, c'est un artiste raté, en fait, qui a raté sa vie, qui pense avoir raté sa vie. Il est assez jeune, mais il pense avoir raté sa vie. Et il se met à la colle avec un autre personnage qui, lui, par contre, a bien compris que l'avenir, c'est le commerce. C'est le démantèlement de tout ce qui reste de l'ex-Union soviétique pour le vendre aux plus riches et aux plus offrants. Et donc la BD commence comme ça, le tome 1 commence comme ça, ils arrivent dans une très très belle bâtisse complètement abandonnée et ils démantèlent morceau par morceau pour la revendre. Et à partir de là, évidemment, ils vont être emportés dans une histoire assez incroyable et qui va les rattraper finalement puisqu'ils vont tomber, ils sont dans la neige, ils sont un peu perdus, ils sont attaqués par des plus malins qu'eux et ils sont recueillis par un drôle de personnage et sa fille qui sont en fait sur un site d'une ancienne usine. Et cette usine, elle est en train de complètement péricliter et finalement, elle doit être achetée par un oligarque pour le sou symbolique. Et elle est encore occupée par les ouvriers et les ouvriers voudraient se l'approprier. Et en fait, moi, ça m'a interpellée parce que ça m'a quand même fait penser, et je sais que l'auteur y a vu la même chose, un miroir un peu grossissant de nos propres pays, du démantèlement aussi de nos industries à nous, dans l'Est et dans le Nord de la France, il y a quelques années, et les changements qui ont été mis en œuvre depuis quelques années pour liquider toutes ces industries avec un cynisme très très proche de celui qui s'est passé en Russie. Et donc cette fresque en trois tomes, elle est passionnante parce que d'abord parce qu'on s'attache à ces personnages qui sont... Il y a un côté drôle... et désespéré chez ces personnages, et en même temps, il y a un fond politique et historique très très intéressant. Et l'auteur, donc, Pierre-Henri Gaumont, il a commencé à l'écrire, il dit dans une interview, au moment où l'Ukraine a été envahie par la Russie. Alors, il n'y voit pas là un effet catalyseur, mais quand même, il y a ce côté d'empire qui s'auto-détruit, mais qui s'auto-dévore, en fait, et qui se mange de l'intérieur, quoi. J'ai envie de dire qui se bouffe de l'intérieur. Et voilà, cette BD, elle est à la fois entre légèreté, entre tristesse et désespoir, et en même temps, tellement humaine, finalement. Parce que ces personnages, finalement, ces espèces de pieds nickelés, ils sont victimes de ce qui se passe dans leur pays. Et en même temps, ils essaient de se saisir des chances qui leur sont tendues, soit dans la réussite commerciale et économique, soit finalement dans une espèce de bohème où finalement, pourquoi pas être un artiste par les temps qui courent, parce que finalement, qu'est-ce qu'on risque ? Pas grand-chose. Voilà, donc je ne saurais que vous conseiller Slava en trois tomes. C'est édité chez Dargo et l'auteur, c'est Pierre-Henri Gaumont. Et j'ai pas dit un petit mot sur le dessin, mais c'est important aussi parce que c'est une BD pas conventionnelle, hein, c'est un très beau dessin. Beaucoup de choses hors case, en fait, c'est plus un roman graphique même que de la bande dessinée. Et ça, c'est pareil, l'auteur nous emporte sous sa plume et sa délicatesse. C'est vraiment à découvrir. Et je vous souhaite un beau Noël à tous et à toutes. Merci.
Attention, c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four. C'est brûlant.
Oh, de dessert, c'est une bûche?
Non, c'est Cloug.
Ah non. Monsieur Prescovic, on a fini le dîner et ces personnes allaient partir.
J'aimerais vous recommander trois bouquins issus d'auteurs de polar traitant de sujets en rapport avec l'actualité. Pour commencer, si vous voulez comprendre quelque chose au bourbier du Liban et des pays levantins, le dernier livre de Frédéric Paulin, « Nul ennemi comme un frère » aux éditions à Gulot Noir, semble tout indiquer. Il y retrace la guerre du Liban de 1973 à 1983, les implications françaises dans la déliquescence de ses ex-protectorats. Les personnages en action sont d'ailleurs souvent issus d'autres livres de Paulin qui nous entraînent sur d'autres terrains post-coloniaux tels que l'Algérie, le Rwanda, etc. Ensuite, le Grand Prix de la littérature policière étrangère de cette année, le livre de Eugenia Almeida, La Casse, paru aux éditions Métellier Noir. L'autrice y brosse un portrait de son pays, l'Argentine, où les trafics et la corruption règnent en maître et où les personnages sont ballottés par les enjeux qui les dépassent. Les germes de cette peste noire ne seraient-ils pas déjà présents dans notre beau pays? Je vous laisse en juger. Pour terminer, le dernier livre d'Olivier Norek, Les guerriers de l'hiver, paru aux éditions Michel Lafon. Une narration historique relatant une guerre oubliée de 1939, où l'URSS de Staline s'en prend à la jeune Finlande sous le regard médusé du reste de l'Europe, inquiète de la montée en puissance des dictatures. La résistance héroïque de la petite Finlande face à l'agression soviétique n'est pas sans nous ramener à une actualité brûlante, et le parallèle avec l'Ukraine n'est évidemment pas un hasard. Et puis tiens, si vous êtes là de vivre par procuration dans vos lectures polardesques, pourquoi ne pas passer à l'acte? Pourquoi ne pas offrir un couteau à votre belle-mère? Alors là, pas d'hésitation, précipitez-vous à l'espace des métiers d'art, 3 rue du Mandarou Samillo, pour y acquérir un de ces magnifiques couteaux d'un forgeron coutelier de Saint-Aff, les couteaux de Witch. L'endroit où vous planterez ensuite dans votre belle-mère reste à votre choix. Mais lorsque vous prendrez un air contrit à la veillée funèbre, n'oubliez tout de même pas de glisser subrepticement une pièce de monnaie dans le cercueil pour ne pas couper l'amitié comme il est d'usage. Et puis question Pinard, puisqu'on s'appelle Polar Vin et compagnie, une petite chanson de Michel Simon pour vous mettre en joie.
Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar. Une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est « Vive le Pinard ». Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, Pinard, remplis mon cœur. Vive le Pinard, vive le Pinard. Attention. Aimer sa sœur, sa tante, sa marraine, jusqu'à la mort. Aimer son étendard, aimer son frère, aimer son capitaine. Ça n'empêche pas d'adorer le Pinard. Une, deux, le Pinard, c'est la Pinard. Vas-y, Pinard, remplis mon cœur. Vive le Pinard, vive le Pinard.
Vive le Pinard, sacré Lionel, yo-yo le surineur qu'on l'appelait à Montreuil. Ben moi qui croyais que sa belle doche, elle avait clamé de vieillesse. En tout cas, toujours aussi nostalgique de la Grande Guerre avec sa chanson de poilu. Désolé pour la qualité, mais il faut dire que ça date. Bon, un petit peu marre de tous ces bouquins. Didier, tu nous présenterais pas une toile pour changer ?
Ah, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, tiens, peut-être que personne ne songe à proposer un film. Et donc, je me suis dit qu'un beau cadeau, avec beaucoup d'humour, serait bien utile en ces périodes. Et donc, je vous propose un film qui s'appelle Le Poulpe. Un film de 1998, mais que moi, j'ai toujours pas oublié. Et je crois que c'est peut-être le premier film de Guillaume Niclou. Alors, Guillaume Niclou, on va en parler beaucoup ces jours-ci, parce qu'il fait un biopic de Sarah Bernhardt, qui va sortir la semaine prochaine. Alors, Guillaume Niclou, eh ben, il met en scène les aventures du Poulpe. Le Poulpe, peut-être que vous le connaissez, c'est le personnage récurrent d'une collection de romans policiers. Des romans policiers assez particuliers, parce que bien que les épisodes du Poulpe, des aventures du Poulpe, soient écrits à chaque fois par un auteur différent, on y retrouve toujours ce même personnage, très attachant, un jeune détective libertaire. Vous avez compris, on l'appelle le Poulpe. Et pourquoi ? Ben c'est à cause de ses bras qui semblent des tentacules. Alors, dans l'adaptation de Niclou, Gabriel Lecouvreur, eh bien, il est interprété par Jean-Pierre Darroussin. Jean-Pierre Darroussin, très jeune, pas encore la grande vedette qu'on connaît, mais certainement plus libre à cette époque qu'à nos jours. Donc, Gabriel Lecouvreur, ben, il est mêlé à une sombre histoire de pillage de tombes. J'en rigole, rien que d'y penser, dont les jeunes pilleurs viennent d'être assassinés dans le port d'Angernaux. Le film est constitué d'une succession de portraits tous plus caricaturaux les uns que les autres qui viennent se greffer sur une intrigue qui n'est en fait qu'un prétexte. Ces portraits dépeignent une réalité parfois sordide, toujours empreinte de poésie, souvent réaliste et souvent pleine d'humour. Ben voilà, voilà mon cadeau et je vous souhaite à tous un excellent réveillon.
Moi, j'aimerais rajouter quand même quelques titres.
Ah ben, je t'en prie.
Du Poulpe, le
ouais,
livre.
Ouais, ouais.
Genre, Arrêtez-ci, Magré, une, ouais. Une enquête écrite par Benoît Sévérac sur l'industrie gastronomique du Sud-Ouest, La petite écuyère à cafeter, etc. etc.
C'est vrai, chaque titre
un grand hommage à Jean-Bernard Pouy. Voilà. Merci Didier.
Le créateur. Allez, merci.
Tiens, un piéton. C'est rare par ces temps de misère.
C'est toi le gardien du suppositoire ?
Quoi ? Quel suppositoire ?
Sous-marin, abruti.
Va te faire foutre, connard !
Je comprends pas, hein ?
Qu'est-ce que vous foutez, là ?
Je suis en vacances ici, j'ai besoin d'un peu d'affection.
Qu'est-ce qu'on vous voulait ?
6000 ballons liquides, c'est ce que ça m'a coûté, ta petite expédition à Morsan.
Je vois que vous avez fait connaissance avec Fabien.
Oui, oui. Très marrant, ce type.
Je peux pas être aussi bourré que toi, Thomas. Ça cache quelque chose.
Avec tout ce que tu bois, tu devrais être mort depuis 20 ans.
Je boirais du lait quand les vaches mangeront du raisin.
Je vais t'écraser.
raser la gueule, labo de merde.
C'est ça, toi. T'as un problème?
Allez, dégage.
Aïe, lâche-moi, enfoiré.
Putain, Thomas, c'est quoi ce bateau?
L'enfer, casse-couille. L'enfer.
Y'a quelqu'un?
Merde, mes nouvelles pompes.
L'esprit des...
Non comprendo.
Ah, tu comprends pas? Pour les frais du poulpe.
Tu te trempes, casse-couille. Il faut punir. Nettoyer.
Faites quelque chose, mon Dieu.
Non.
Je rigole, mais c'est pas marrant. Comme si on avait que ça à s'occuper avec tous les barbus atomiques.
Ça vous change les alcotestes?
Ça change pas. Ça complique. Moi aussi, j'aime bien la guitare. Mais j'aime pas les barbus. Sauf des être top. Alors eux, c'est pas pareil. Ça, chapeau. Ça, ça ramone.
Ah, le poulpe et les titres à la con des bouquins de la série. Le cantique des cantines, Warzazet et mourir, la pieuvre par neuf. Je continue ? Il y en a plus de 200 comme ça. Bon, faudrait quand même en finir, je commence à avoir la dalle. Et moi, quand j'ai la dalle, j'ai vraiment la dalle. Alors, a-t-on gardé le meilleur pour la fin ? F-A-I-M ? Ben ouais, esprit poulpe. J'ai dû au début qu'on aurait peut-être le daron Noël. J'ai bien dit peut-être, parce que là, il est au charbon, le vieux. Alors, on a eu un de ses associés, le père Guy. Ça lui va bien, père Guy. Il va nous parler de Jésus. Ben, c'est d'actualité, c'est Noël. Sauf que Jésus, là, paraît qu'il se l'écaille. Bon, ça, c'est poulpe. Attendez la suite pour comprendre.
William, tu nous as proposé de présenter à l'occasion de cette dernière émission de l'année et Noël un ouvrage de circonstances en passant devant la partie accessible de l'arrière rue du Mandarou chez le fameux Pierre. Je me suis trouvé face à un livre qui m'a interpellé par son titre, Jésus Lacaille. Dans mon éducation judéo-chrétienne, Noël égale Jésus. Voilà, j'ai trouvé mon idée. Bien m'en a pris. Un début de lecture rapide m'a plongé dans un univers qui m'était inconnu. Et dans la prose de l'auteur tout aussi méconnu pour moi, Francis Caro. Dans son roman Jésus Lacaille, Francis Caro parle de manière très ouverte des prostituées, des souteneurs, des homosexuels à Montmartre et à Belleville au début du XXe siècle. Je me suis donc retrouvé dans les bas-fonds de Montmartre. Mais que vient faire Jésus dans cette histoire? Les Jésus, c'était des invertis, comme on disait, des homosexuels, plutôt jeunes. Le terme entre, semble-t-il, dans le lexique vers les années 1830-1835. Il est très régulièrement utilisé dans des souvenirs de gens de police. Francis Caro a écrit aussi des poèmes. Minuit, romance de Paris. Au fond de l'impasse, un hôtel de passe, il pleut, c'est minuit. J'entends sonner l'heure d'une voix qui pleure et le pavé lui. Qui donc ici passe? Quelle ombre s'efface? Quelle autre la suit? Au fond de l'impasse, par ce soir de pluie. Ce livre a été adapté au théâtre par Frédéric Dard. Il y a trouvé source d'inspiration et nombre de références argotiques pour ses 100 oignons. Une adaptation au cinéma, Monsieur Lacaille, par André Pergamon en 1955. A noter que la sexualité du personnage est changée dans le film, ce qui détruit totalement tout son intérêt. Joseph Kosman a composé une musique sur un texte de François Carcopino, alias Francis Carco. Jésus Lacaille est disponible aux éditions Albin Michel. À découvrir cet auteur et l'ensemble de son œuvre. Bonne Noël à tous, au revoir. Thank you.
maquillé, pomponné et truqué, ondule la lèvre aguichante. Les adolescents que je chante ne sont pas tous sophistiqués. L'un de se moquant du scandale sur le boulevard de Clichy tapinait de blanche à Pigalle et ne faisait aucun chichi. Jésus Lacaille est un garçon qu'on prend souvent pour une fille, qu'on prend souvent pour une fille. On dit de lui qu'elle est gentille, qu'il a du charme à sa façon. Garçons vont bien ensemble, ce qui manque à l'un, l'autre là, que vous ensemble, tralala, tralala, la 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 la. Il fut pourtant victime d'un béguin qui l'avait inspiré sans peine à la péripatéticienne la plus régulière du coin. La dame l'aimant d'amour tendre, Lacaille se laissait aimer. Voyez-le comme il faut l'entendre, ses amours ne durent jamais. Jésus Lacaille est un garçon qu'on prend souvent pour une fille, qu'on prend souvent pour une fille. On dit de lui qu'elle est gentille, qu'il a du charme à sa façon. Fille, garçon vont bien ensemble, ce qui manque à l'un, l'autre là, que vous ensemble, tralala, tralala, la 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 la.
Bon ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais pouvoir enfin aller me rincer le gosier. Je vais quand même pas attendre le mardi 17 après le film, Il était une fois le midi viticole, qui passe à 20h30 au cinéma de Millau. Et c'est même fini pour cette année, puisqu'il n'y aura pas de Polar mes compagnies dans 15 jours. Mais on parlera quand même Polar, avec la diffusion de la table ronde Rural Noir, enregistrée en septembre dernier à Jazz et Polar au Viala du Tard. Vous y retrouverez la frangine, Laurence Bieberfeld, suivie d'un petit débat sur la culture en milieu rural. Si vous n'en avez pas eu marre de Mésic, vous pouvez écouter la rediffusion de cette émission mardi prochain à 16h, sinon en podcast sur radiolarzac.org, rubrique émission. Bon allez, je vais tâcher de me tenir à carreau pour ces fêtes de fin d'année. Je vous embrasse toutes et tous et...
Joyeux Noël !